Voilà, bonjour à tous. C'est toujours une joie d'être ici à Wavre et de vous revoir tous. Enfin, il y en a que je vois plus souvent mais, que d'autres. ok. Voilà. Est-ce que vous avez des attentes ce matin? Oui? Pas trop? Vous êtes venu avec des attentes ou vous n'avez pas d'attentes? Hein? C'est toujours bien de venir avec des attentes parce que Dieu peut y répondre. Hein? Mais si tu n'as pas d'attentes, bon, Dieu est souverain et peut répondre. Mais est-ce que tu vas reconnaître quand Dieu répond à ton non-attente? C'est ça. Mais si tu as une attente, généralement tu reconnais quand Dieu répond à ton attente. Donc je nous encourage à avoir toujours des attentes. Alors, on va lire dans Daniel un passage qui m'a interpellé. Dans Daniel 2. Alors, on va lire du verset 1 au verset 5, et après, hop, on va sauter du verset 10 au verset 19. Daniel 2, versets 1 à 5 et 10 à 19. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, le roi fit un rêve qui le troubla au point qu'il en perdit le sommeil. Il ordonna de convoquer les mages, les magiciens, les devins et les astrologues pour qu'ils lui révèlent ses rêves. Ils vinrent et se tinrent devant le roi. Celui-ci leur dit « J'ai fait un rêve et mon esprit tourmenté par le désir de savoir ce que c'était. » Les astrologues dirent au roi en langue araméenne « Que le roi vive éternellement. Raconte le rêve à tes serviteurs et nous t'en donnerons l'interprétation. » Le roi répondit aux astrologues, « Ma décision est ferme. Si vous ne me révélez pas le contenu du rêve et son interprétation, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en tas de décombres. » C'est encourageant. Je ne sais pas s'ils avaient des attentes quand ils sont venus, mais devant le roi. Et ensuite, du verset 10 au verset 19, parce qu'alors après, il y a un aller-retour de dialogue entre le roi et ils disent « Non, mais dis-nous le rêve et nous, on va te l'interpréter. » Et puis le roi, il se fâche de plus en plus. Et donc, verset 10, les astrologues reprirent la parole devant le roi et dirent « Il n'est personne au monde qui puisse faire connaître à sa majesté ce qu'elle demande. Aussi, jamais roi si grand et si puissant qu'il ait été n'a exigé pareille chose d'aucun mage, magicien ou astrologue. Ce que le roi demande est trop difficile et il n'y a personne qui soit capable de révéler cette chose au roi, excepté les dieux, mais eux, ils n'habitent pas parmi les mortels. » Là-dessus, le roi s'irrita et entra dans une colère violente. Il ordonna de mettre à mort tous les sages de Babylone. Lorsque le décret de tuer les sages fut publié, on rechercha aussi Daniel et ses compagnons pour les mettre à mort. Alors Daniel s'adressa avec sagesse et tact à Arioc, le chef des bourreaux du roi, qui s'apprêtait à tuer les sages de Babylone. Il demanda à Arioc, l'officier du roi, « Pourquoi le roi a-t-il promulgué donc une si terrible sentence ?» Alors Arioc lui exposa l'affaire. Daniel se rendit auprès du roi et le pria de lui accorder un délai en lui disant qu'il lui ferait alors connaître l'interprétation demandée. Puis il rentra chez lui et informa ses compagnons, Anania, Michaël et Azaria, de ce qui s'était passé, en leur demandant de supplier le Dieu des cieux que dans sa grâce il leur révèle ce secret, afin qu'on ne fasse pas périr ses compagnons et lui avec le reste des sages de Babylone. Au cours de la nuit, dans une vision, le secret fut révélé à Daniel. Alors celui-ci loua le Dieu des cieux. On va s'arrêter là. Donc je ne sais pas si ça vous rassure, mais je ne vais pas prendre le sens eschatologique de toute la vision de Pharaon. Non, en fait, j'aimerais voir avec vous, ce passage m'a interpellé, voir avec vous comment nous pouvons être la réponse de Dieu dans ce monde. Comment Dieu nous appelle à être la réponse de Dieu dans ce monde. Alors, il y a une histoire terrible, hein. Au début, on voit une situation avec l'intransigeance d'un roi tout puissant, d'un pouvoir absolu qui veut tout obtenir, tout savoir. Et le roi tient dans sa main la vie et la mort de tous les sages, de tous ses sujets. Et alors arrive le chef des bourreaux, Arioch. Hein, vous imaginez, hein, le chef des bourreaux vient chez vous et il vous emmène. Waouh, là, vous savez que les heures sont comptées là. Hein. Et il vient chercher Daniel. Et c'est étonnant parce que Daniel, il n'était pas dans la délibération. Il n'a pas été convoqué devant le roi. Mais voilà, le roi a dit, ils doivent tous mourir. Tous mourir. Et donc, Daniel fait partie aussi de ceux qui doivent mourir. Première leçon spirituelle, je crois, ici. Si nous ne nous occupons pas de ce monde finira par nous s'occuper de nous. Si nous ne nous occupons pas de ce monde finira par s'occuper de nous. Daniel n'était pas présent au moment de la délibération, mais le monde avait décidé de s'occuper de lui et de le mettre à mort. Et donc, nous sommes appelés à être une réponse dans ce monde aussi. Quelle est l'attitude de Daniel ? Alors, il ne cède pas à la panique, parce qu'il sait que celui qui est en lui est plus grand que celui qui est dans le monde. Et ensuite, il vient poser des questions au chef des bourreaux. Il pose les bonnes questions. C'est important de comprendre les choses, parce que quand tu comprends les choses en posant les bonnes questions, ça ouvre la porte à Dieu pour intervenir. On devrait toujours poser des bonnes questions aux hommes et à Dieu. Je me souviens, il y a beaucoup d'années, hein, quand Maggie avait mis sa main dans la tondeuse, bon, c'était pas volontairement, hein, qu'elle avait mis sa main dans la tondeuse, mais elle avait trois doigts coupés, dont un qui pendait, etc. Et donc, on l'amène d'urgence aux urgences. On connaissait pas SOS Main à l'époque, donc c'était au début de notre séjour. Et on l'amène au CHR de Seclin, aux urgences. Et puis j'étais avec une sœur, Nora, qui était là, donc je les dépose devant les urgences. Puis tout avait été fait vraiment un peu dans la précipitation, donc on n'avait pas eu le temps de prier, vite pas, on était parti à toute vitesse. Et après je vais garer, pendant que je les dépose aux urgences, et je vais garer au parking. Et là, je prends juste un temps pour poser une question à Dieu. Et je demandais à Dieu, qu'est-ce que toi, tu dis de la situation ? Parce que moi, je pouvais dire beaucoup de choses sur la situation. Je pouvais paniquer, je pouvais être en colère, je pouvais être découragé, inquiet. Mais j'ai demandé à Dieu, mais toi, qu'est-ce que tu dis de la situation ? Et là, clairement, dans mon esprit, j'ai entendu source de vie, source de vie. Donc je ne crois pas que ça voulait dire que je devais courir à Wavrin, l'église source de vie, pour prier. Je n'ai pas pensé ça tout de suite là. Mais en fait, c'est comme si Dieu donnait sa perspective. Et à partir de là, j'ai compris que cet accident grave, sérieux, inquiétant, parce que Maggie a failli perdre un de ses doigts, était pas. Il y avait une perspective de Dieu. Et sa perspective de Dieu, c'était la vie. Et ça a changé ma prière, ça a changé ma perspective, et ça nous a donné une prière qui a accompagné Maggie dans cette épreuve et qui a permis la guérison et l'intervention de Dieu. Et aussi, c'est devenu un témoignage plus tard, quand on est reparti en Centrafrique, parce qu'il se passait beaucoup de choses en Centrafrique, et cet accident était lié. Et donc, ça nous a donné une parole d'encouragement. Donc, c'est toujours important de poser les bonnes questions à Dieu pour avoir sa perspective de la situation. Et devant Dieu, devant nous, souvent, certaines situations sont des problèmes. Voilà, quand tu as une perte de quelque chose, de quelqu'un, d'argent, de travail, quand tu es dans les difficultés, quand tu as un échec, tu vois rarement l'opportunité, tu vois le problème. Mais Dieu voit toujours l'opportunité. Et donc c'est important de lui poser les bonnes questions pour recevoir son regard et entrevoir l'opportunité et prier l'opportunité de Dieu. C'est souvent pas l'effet d'un instant comme ça, hein, parce que notre cœur doit être changé. Mais quand tu commences à entendre sa parole sur la situation, alors ton cœur va pouvoir être changé par la prière de cette parole, par l'acceptation de cette parole, et en laissant cette parole devenir vie en toi. Donc, Daniel pose des bonnes questions au chef des bourreaux, et il va recevoir une perspective de Dieu sur la situation. Et après, il va près du roi. Donc, il va à la source du problème. Il va près du roi et il lui dit « Donne-nous un délai. Donne un délai. » Donc, se présenter déjà devant le roi, lui, il ne fait pas encore partie des... En tout cas, il n'était pas là. Il ne fait peut-être pas partie du cercle restreint du roi à ce moment-là. Hein. C'est après qu'il va être élevé en autorité. Mais il a le courage, la foi de se présenter devant le roi, de faire face à la situation. Faire face à la situation. Je pense souvent, nous manquons de courage face aux situations et nous préférons détourner le regard, enfouir les situations plutôt que de faire face. Daniel fait face à la situation. Mais tout de suite après, il va près du roi. Mais qu'est-ce qu'il fait après ? Il va près de Dieu. Et il rentre chez lui et il dit à ses amis, mais prions. Et il demande à Dieu, mais voilà, révèle-nous le secret. Révèle-nous le secret du rêve du roi et son interprétation. Et donc il lève une prière collective avec ceux qui appartiennent à Dieu. Je pense que ça c'est peut-être un questionnement aussi pour nous, en tant que personne, en tant qu'enfant de Dieu, pour nous en tant que communauté, en tant qu'Église, et pour nous plus largement en tant qu'Église. Quelle prière collective levons-nous face aux situations de ce monde? Est-ce que nous les évacuons? Est-ce que nous détournons le regard? Ou est-ce que nous levons une prière pour une situation locale dans une ville, pour une situation nationale, pour une situation internationale? Daniel fait cela et il trouve une prière collective. Et alors est-ce que Dieu y reste silencieux? Il ne reste pas silencieux, Dieu. Pourquoi? Deux raisons, je pense. Premièrement, Dieu connaît toujours mieux les enjeux que toi. Donc toi, tu viens paniquer, mais écoute Dieu, tu ne sais pas que si on n'a pas la réponse, on va tous mourir. Mais tu penses que Dieu, il ne sait pas. Mais il connaît les enjeux qui sont sur ta vie. Il connaît tes combats. Il connaît les risques. Il connaît ce que tu peux perdre. Il connaît ça, même avant que toi tu le connaisses. Tu les connaisses. Avant que tu les connaisses, il connaît les enjeux. Ça, c'est première raison. Et donc Dieu ne tarde pas. Il sait apporter la réponse appropriée à tes enjeux. Et au-delà de tes enjeux, souvent. Et puis, Dieu prend plaisir à se glorifier. Dieu prend toujours plaisir à se glorifier dans nos situations. Parce qu'il aime que son nom soit honoré, que son nom soit connu, que son nom soit reconnu, et qu'on le voit comme le Dieu qui domine sur les situations et qui a une solution pour chaque situation. Et Dieu se glorifie quand nous nous mettons en position de le glorifier. Dieu se glorifie quand nous nous mettons en position de le glorifier. Voilà, si Daniel avait dit « Oh, mais c'est terrible, je savais que je devais partir en esclavage dans ce pays pour mourir, ça y est, le chef des bourreaux est là, bon, c'est fini, on a essayé de faire quelque chose. » Mais Dieu ne pourrait pas plus se glorifier dans la situation. S'il avait été dans l'acceptation, dans la soumission par rapport à ce qu'il se passait, dans le découragement, Dieu n'aurait pas de chemin pour se glorifier. Mais Daniel s'est mis en position d'enfant de Dieu qui sait que Dieu l'aime, qui sait que Dieu est fidèle, qui sait que Dieu connaît les enjeux, que Dieu a une solution et qu'il veut la révéler à ses enfants. Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amos 3:7. Donc Dieu envoie sa réponse. Et c'est intéressant, vous voyez, quand les sages, les astrologues, les magiciens, ils sont tous devant, à chaque fois que le roi leur pose la question, ils disent: mais donne-nous le rêve et nous te donnerons l'interprétation. Oui, nous te donnerons. Ils sont certains de leur expertise à interpréter. Voilà, ils ont une assurance dans ce qu'ils connaissent. Ils ont une assurance dans leur expertise. Souvent, ce monde s'appuie sur son expertise et il a de l'assurance dans son expertise, parfois même de l'arrogance dans son expertise. Mais quand les situations vont au-delà de son expertise, ce monde est perdu. Il ne sait plus où donner de la tête. Et je pense que beaucoup de choses qui se passent actuellement autour de nous, c'est parce que l'expertise de ce monde n'arrive plus à donner une réponse aux questions que les situations lui posent et pour lesquelles il n'est pas préparé. La sagesse de Dieu est toujours plus grande que la sagesse des hommes. Pensez à ce passage dans 1 Corinthiens qui dit: la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Dieu va au-delà des limites de la sagesse de ce monde. Donc voilà un peu la situation. Et donc, question: quelle réponse sommes-nous pour ce monde? Quelle solution sommes-nous pour ce monde? Première chose, j'ai constaté que le monde a des problèmes qu'il ne sait pas résoudre. Voilà. Moi, comme j'ai dit tout à l'heure, l'expertise, mais c'est vite limité. Et le monde a des problèmes qu'il ne sait pas résoudre. Mais, très souvent, il veut que tout le monde apprenne à résoudre les problèmes avec ses stratégies à lui, avec ses armes à lui. Et il y a une tendance de ce monde à nous soumettre à sa stratégie, à ses armes, à sa façon de voir les choses. Et en tant qu'enfants de Dieu qui avons la sagesse d'en haut, il ne faut pas qu'on se laisse voler nos armes. Il ne faut pas qu'on se soumette aux armes de ce monde, à la sagesse de ce monde, parce que sinon nous serons incapables de résoudre nos propres problèmes et de résoudre les problèmes de ce monde et de les transformer en opportunités comme Dieu le veut. Notre sagesse est en Dieu et dans ses armes qu'il nous a données. Attention de ne pas nous laisser dépouiller de nos armes par l'intimidation de ce monde. Ce monde se prétend sage, ce monde se prétend fort. Ne te laisse jamais dépouiller de ta sagesse reçue d'en haut parce que tu te laisses intimider par la raison et par la force de ce monde. Quand il y a des problèmes, le monde va dire: bon, nous avons la psychologie pour répondre. Ah, il faut plus d'argent. Oui, plus d'argent, ça va résoudre le problème. Et on remet toujours plus d'argent et le problème n'est pas résolu. Ah, il faut être moins dur ou il faut être plus dur. Ah, il faut... Voilà, toutes sortes de solutions que le monde va trouver, mais qui ne sont pas de la sagesse de Dieu. Il y a de nombreuses années, je vous donne un petit exemple personnel, j'étais au Burkina Faso et j'étais nommé responsable d'une ONG qui travaillait dans différents endroits du pays. Peu après mon arrivée, il a fallu qu'on change de bureau parce qu'en fait les bureaux n'étaient plus le propriétaire voulait reprendre ses bureaux et donc on a trouvé des nouveaux bureaux et donc se posaient toutes sortes de situations pratiques où il fallait régler les choses administratives et notamment il fallait un téléphone. Et bon, c'était la moindre des choses pour travailler, d'avoir un téléphone, pour être en contact avec nos agents sur le terrain, pour être en contact avec le bureau à Paris, etc. Et donc, j'avais un coursier qui s'occupait un peu de toutes les affaires pratiques, un Burkinabé, qui s'appelait Salif. Et donc, je lui dis, bah, écoute, il faudrait voir pour le téléphone qu'on puisse l'avoir. Il me dit, ah oui, bien sûr, mais... voilà, mais ça va pas marcher si on donne pas quelque chose. Ça va jamais marcher si tu ne donnes pas un pourboire à la personne. Alors, moi j'avais tout un parcours là-dessus où j'avais voyagé et j'avais jamais cédé par rapport à ce genre de demande, bien que j'avais voyagé beaucoup en Afrique. Et je lui dis, ah non, écoute, moi je suis chrétien, je donne pas de pourboire, je passe pas dans la corruption, donc on va prier et Dieu va répondre. Il était vraiment fâché, quoi. Il dit, oh. Il dit, mais non, mais si tu rentres pas là, tout le monde fait ça. J'ai dit, non, mais on va voir. Et puis on a fait comme ça, et deux semaines après, ou trois semaines, hein, je veux dire trois semaines, on avait le téléphone, alors que normalement, même en soudoyant, il m'avait dit, ça prendra trois semaines, un mois. Mais là, en soudoyant pas, on a eu ça plus vite. Ne te laisse pas déposséder de tes armes, les armes de l'intégrité, les armes de la vérité. Ne viens pas sur le terrain où le monde veut t'attirer. Parce que sur ce terrain, tu n'es plus sur le terrain de Dieu et tu te fais dépouiller de l'autorité et de la faveur de Dieu qui est sur toi. Alors, où suis-je là? Ici. Oui, et à cette époque, même certains serviteurs de Dieu disaient, oh, mais de toute façon, c'est le pays qui est comme ça, il faut donner, tu sais, il y a la corruption. Bon, et encore, le Burkina Faso n'était pas très corrompu à l'époque par rapport à d'autres pays africains. Non, mais il faut donner, le pays est comme ça. Le pays est comme ça. Oui, question, est-ce que le royaume de Dieu est comme ça? Est-ce que le royaume de Dieu est comme ça? Demeurez sur le terrain du royaume de Dieu parce que nous ne sommes pas citoyens d'un pays, mais nous sommes citoyens du ciel. Demeurez sur le terrain de la vérité, de la droiture et du conseil et de la sagesse de Dieu. Et utilisez ces armes. C'est quoi ces armes? Bon, on pourrait en trouver beaucoup, mais je dirais les armes de la paix. Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés enfants de Dieu. Il y a beaucoup de terrains de guerre dans ce monde. Hein. Je ne parle pas seulement de la guerre avec les munitions, mais de conflits, d'affrontements. Mais, et je sais que parfois on se laisse entraîner, mais notre autorité d'enfant de Dieu fait que nous sommes de ceux qui procurent la paix et que nous pouvons déjouer les armes de la guerre par la paix de Dieu. Et c'est à ça qu'on doit tendre et prier pour que Dieu nous donne la grâce d'accomplir ces choses. On a le ministère de la réconciliation, non seulement la paix de Dieu, mais celui de la réconciliation. Parce qu'on a été réconcilié avec Dieu, on a le ministère de la réconciliation des hommes avec Dieu, mais pas seulement ça. La réconciliation avec Dieu, souvent elle passe par la réconciliation avec les hommes. Et je crois qu'on est une semence là où on est, dans nos familles, dans notre travail, dans nos environnements de réconciliation. Et Dieu veut qu'on soit une solution de réconciliation là où on est, par le fait qu'on a été réconcilié avec lui et qu'il nous a pardonné. Nous pouvons pardonner, libérer le pardon, encourager le pardon et être un agent de réconciliation. Alors, oui, le problème, c'est que très souvent, nous agissons par mimétisme avec ce monde. On cherche à imiter. Mais si nous sommes différents, et nous sommes différents, comme j'ai dit, nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes du royaume de Dieu, nous avons été renouvelés par la vie de Christ, par l'esprit de Christ, par la sagesse de Christ, par le discernement que Dieu nous donne. Si nous avons été renouvelés, Et si nous sommes différents, nous sommes différents pour faire la différence. Nous sommes différents pour faire la différence là où Dieu nous place. Alors j'aimerais prendre quelques exemples de ce qui peut nous dépouiller de nos armes. Dans la Bible, il y a quelques exemples où on voit que des serviteurs de Dieu, même des serviteurs de Dieu puissants, se laissent dépouiller de leurs armes ou se laissent entraîner sur un terrain et ils passent par des difficultés à cause de ça. Et j'aimerais voir qu'est-ce qui provoque ça. Exemple d'Abraham, hein, le père des croyants, hein, donc voilà la stature, hein, le père des croyants, le père de la foi. Et certainement par sa vie, Abraham peut nous enseigner beaucoup de choses et nous mettre dans l'humilité. Et pourtant, Abraham, par deux fois, pas par une fois, par deux fois, il reproduit le même mensonge. Et il dit « Sarah est ma sœur, Sarah est ma sœur ». Et on sait les problèmes que ça va faire, hein. Il se dit, oh, si je dis que c'est ma femme, ils vont me tuer, et hop, ah, si je dis que c'est ma sœur, je vais avoir des faveurs, et on va me laisser la vie, premièrement, c'est le plus important, et on va bien me traiter. Et il le fait en Égypte avec Pharaon, et on sait que Pharaon, les conséquences, c'est terrible, hein. Pharaon prend Sarah comme sa femme. Mais Dieu intervient, il envoie les plaies sur l'Égypte, et finalement, Pharaon comprend qu'il y a eu un problème avec Sarah, il va ensuite les renvoyer. Et pourtant, Abraham recommence avec Abimélec, un autre roi, sur le terrain de Canaan. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, qu'est-ce que dit Abraham? Il dit une chose qui nous, doit nous parler beaucoup. Il dit, où est-ce que j'ai mis ça? Sûrement, je me suis dit que sûrement, il n'y avait pas de crainte de Dieu en ce lieu. Je me suis dit que sûrement il n'y avait pas de crainte de Dieu en ce lieu. Et voilà, souvent je pense qu'on a un peu ce regard. On a le monde de l'Église, oh là il y a la crainte de Dieu, tout va bien, je suis en sécurité, je peux agir selon les paroles de Dieu, selon les principes de Dieu. Ah, par contre, quand je suis dans le monde, oh, la crainte du monde entre en moi. Oh, mais sûrement, il n'y a pas la crainte de Dieu. Si je commence à agir comme dans le royaume de Dieu, où les gens vont se moquer de moi, ils vont pas écouter, ils vont peut-être se retourner contre moi, me persécuter. Ils peuvent pas comprendre parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Et c'est ça qui a fait tomber Abraham. Mais si tu penses comme ça, et je pense qu'il y a des situations où on est amené à penser comme ça, et ça joue sur notre positionnement, ça joue sur notre façon de parler et notre façon d'agir. Je vous donne peut-être un verset qui peut vous aider beaucoup. Proverbe 16, 7. Proverbe 16, 7. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Ça veut dire quoi? Ce qui est important, c'est de demeurer dans l'approbation de Dieu. Et nous aurons la faveur de Dieu. Par contre, si je quitte l'approbation de Dieu, je ne peux pas m'attendre à avoir la faveur de Dieu. Dieu est souverain, il est bon, il peut toujours agir comme il a agi. Et il a parlé à Pharaon, et il a sorti Abraham de ce piège. Mais quelles conséquences? Quelles conséquences? Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Il y a un coût, toujours un coût, à demeurer dans l'approbation de Dieu. Mais ce coût a des bénédictions qui coulent quand nous acceptons de payer ce coût-là. Je vais vous donner un autre exemple personnel. Il y a de nombreuses années, là aussi, je voyageais à travers l'Afrique et je me suis retrouvé en Somalie. Et alors, comme je vous ai dit, voilà, j'avais cette décision que j'avais prise. Et en fait, cette décision, je dois dire, elle vient d'une expérience que j'avais eue à l'époque en Centrafrique, où je travaillais en Centrafrique et j'avais fait la connaissance de Maggie, mon épouse. Et on était juste au tout début de notre relation. Et en fait, un jour, donc je travaillais, j'apprends plus tard qu'il faut un permis de séjour pour pouvoir faire ça, etc. Bon, moi, on m'avait proposé un travail, c'était même des gens assez bien placés dans Bangui qui m'avaient proposé un travail que j'avais rencontré par hasard. Et donc, je ne me posais pas cette question. Et en fait, sur la fin de mon séjour, cette question a commencé à venir. Et un jour, je me suis fait arrêter par un barrage de police et on me demande mon permis de séjour. Et donc, j'en avais pas. Donc, le policier monte avec moi. Et puis, il y a mon adjoint dans mon travail qui était un centrafricain qui dit non, mais tu lui donnes 5 000 francs CFA. Hein, c'est pas 5 000 francs. Hein, c'est à peu près 8 euros, on va dire 10 euros. Mais bon, c'est énormément déjà pour l'époque et pour le pays. Et finalement, bon, j'étais sous la pression. Le policier disait, bon, vous allez plus pouvoir travailler, vous allez devoir partir du pays. Et mon collègue disait, non, mais tu donnes 5 000. Et donc, j'ai donné ça. Et vraiment, là, j'ai senti, là, c'est resté comme une marque sur moi. Et j'ai dit, mais plus jamais ça. Et c'est à partir de là que j'ai tenu ferme sur le fait de pas lâcher et de demeurer intègre. Et à l'époque, je ne connaissais pas Dieu. Je n'avais pas encore fait vraiment une rencontre de Dieu. Je n'avais pas encore lu la parole. Mais j'étais persuadé qu'il fallait tenir sur ce principe d'intégrité. Et donc, des mois après, je quitte la Centrafrique et puis je recommence mon voyage. Et j'arrive en Somalie. Et en Somalie, j'arrive dans un contexte difficile. C'était juste avant... Je suis arrivé, en fait, la guerre en Somalie a démarré quand j'étais dans le pays. On ne savait pas encore. Il y a eu un soulèvement. Je suis passé dans ce village. Je voyais une tension incroyable. J'apprends que 4 jours après, il y a un soulèvement de la garnison contre le président. Et en fait, ça a été le début de la guerre civile en Somalie. J'ai dû quitter la Somalie à pied parce que toutes les communications étaient coupées. Et donc, je me retrouve dans une ville qui s'appelle Kissimayo, sur la côte, et je pense que je devais être peut-être, en tout cas j'en ai pas vu d'autres, le seul touriste blanc qui restait parce que les autres avaient déjà quitté le pays. Et puis j'étais tombé malade, assez sérieusement malade pendant toute une période, quand je commençais à aller mieux, je vois que mon visa va bientôt expirer. Et donc, je me dis, il faut que je change mon visa. Et je rencontre par hasard sur la plage un gars de l'immigration. Et donc, je lui dis, je dois renouveler mon visa parce qu'il va arriver, j'avais qu'un mois, et il va arriver à terme. Il me dit, oui, pas de problème, venez me voir demain dans le bureau et on va régler ça. Et donc, je viens, mais après, quand je viens, le gars me dit, non, il faut voir le chef. Et donc, c'était pas lui, donc je me suis dit, ah ben le chef, c'est celui que j'ai rencontré sur la plage. Et quand je reviens le surlendemain, je tombe sur un gars, je sais pas que c'est le chef, mais en fait c'est le chef, mais moi je pense que c'est le numéro 2. Et je lui dis, j'ai vu votre chef sur la plage, il m'a dit de venir et de vous demander de faire mon visa. Enfin, j'étais un peu plus, mais bon, j'étais persuadé que lui était pas le chef. Et il prend mon passeport là et il regarde, il dit, votre visa est expiré. Vous êtes illégal en Somalie. Et il pose mon passeport sur le bureau et avec sa main, il ouvre son tiroir et je vois qu'il va prendre mon passeport. Et donc, je reprends mon passeport et je me lève et je dis, bon, je reviendrai voir votre chef demain. Et là, le gars, il me regarde avec des yeux. Alors, il faut voir que c'était le Ramadan aussi. Hein, donc, les gens... Avec la chaleur en plein, c'était en plein mois d'avril, je pense, pleine chaleur, les gens sont vraiment sous tension. Et le gars, il se met à bondir de sa chaise, et il bondit comme ça, il dit, je vais te tuer comme un chien, je vais te tuer comme un chien. Donc là, vous priez. Hein. Et donc, je lui dis non. Ah oui, parce que j'avais oublié de dire quelque chose. Au moment où il prend mon passeport, il dit gifty, donc cadeau, quoi. Donc si je donne un cadeau, et comme je dis, oui, c'est vrai, j'ai oublié de dire ça. Il me dit gifty. Et je lui dis, non, moi je donne jamais de cadeau. Donc c'est là qu'il prend mon passeport et il dit, Bon, vous êtes illégal en Somalie. Et donc, quand je réagis, il dit, je vais te tuer comme un chien. Et donc, avec mon passeport, je quitte la salle et je dis, je reviendrai demain voir votre chef. Et je marche, et lui, il court jusqu'à la porte de l'immigration, donc, parce que j'arrive dans la cour de sable, là. Et il crie à un des policiers qui est là de fermer le grand portail. Tu sais, bon, il ferme le grand portail. Et puis, donc, je peux plus sortir. Et puis ils amènent les menottes. Mais je dis, oh non, mais c'est pas nécessaire. Il dit, tu veux qu'on te les mette de force? Je dis, non, non, pas de force. Donc, on me met les menottes. Et après, ils m'entraînent dans un endroit derrière, dans la cour, mais dans un endroit caché. Là, j'étais pas vraiment en prison, mais avec mes menottes. Là. Et ce que Dieu avait fait, c'est qu'il m'avait permis de rencontrer la veille ou l'avant-veille une personne avec qui j'avais commencé à parler, très sympa, et qui s'est révélé être le directeur de l'aéroport de la ville. Et il m'avait dit, ah, fais attention avec l'immigration, parce que je lui avais dit, ah ben, il faut que je renouvelle mon... Il m'a dit, fais attention, hein, le gars de l'immigration, il est méchant et il aime l'argent. Le chef. Mais moi, je pensais pas que c'était lui le chef. Et donc, je me suis dit, oh, seul blanc avec des menottes, là, je regardais quand il y avait personne, hop, je sortais de mon coin et puis je me faisais voir dans la cour parce qu'ils avaient réouvert les portes, il y avait des gens qui circulaient. Je me dis, s'ils voient un blanc avec des menottes, peut-être que des gens vont se poser des questions. Ils vont aller parler à ce gars que j'ai rencontré la veille parce que c'est là que je l'avais rencontré en fait. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Et après, donc, ce gars est intervenu auprès du chef de l'immigration et finalement, de fil en aiguille, donc je suis resté, je pense, 2 heures avec mes menottes là, de fil en aiguille. Ils ont accepté de faire mon visa en payant le coût du visa, mais sans payer le cadeau, quoi. Voilà. Mais ça a un coût. Et tu dois croire que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Donc la crainte du monde peut nous dépouiller de nos armes. Je dirais qu'il y a aussi l'amour du monde peut nous dépouiller de nos armes. Pensez à Samson, par amour pour Dalila, il lui révèle son secret et il perd sa force. Et après, vous savez, il lui a menti plusieurs fois. Et à chaque fois, hop, il arrive à briser ses chaînes, etc., ses liens. Et là, il dit, je m'en tirerai comme la dernière fois. Mais il ne savait pas que Dieu s'était détourné de lui. C'est terrible, cette phrase. Mais il ne savait pas que Dieu s'était détourné de lui. Et que Dieu nous fasse cette grâce de demeurer sur son terrain et dans ses armes pour ne pas... Bon, peut-être on ne va pas expérimenter aussi grave que Samson, mais pour ne pas expérimenter des revers dans nos vies que Dieu n'a pas voulu. Il y a l'orgueil du monde aussi. Pensez à David à qui on propose l'armure de Saül. Voilà, mais bon, elle ne lui va pas du tout, mais il aurait pu dire, oh, mais c'est l'armure du roi, tout le monde aurait regardé, oh, David a l'armure du roi, c'est fantastique. Les honneurs du monde, la séduction du monde, l'orgueil de ce monde peut nous enlever nos armes. Peut-être nos armes, elles sont méprisables, elles sont viles devant ce monde, le monde s'en moque, mais tenons sur les armes et sur le terrain de Dieu. Voilà, alors, et David, il va tenir et il va se servir de ses armes de berger, parce qu'il est berger, et c'est avec les armes de berger et pas l'armure du roi qu'il va terrasser Goliath. Perspective. Dans les temps difficiles qui viennent, beaucoup de menaces, beaucoup de peurs sont agitées autour de nous. Et puis on nous montre un modèle raisonnable du monde, le monde de la raison, la technicité. Oh, la science peut tout. Et la laïcité, voilà, ça c'est le monde raisonnable. Tiens là-dedans et tu verras, tout marchera. Mais toutes ces choses peuvent... Je ne dis pas qu'il faut être stupide, hein, je ne dis pas qu'il faut se révolter contre la science, la technique, etc. Et je sais qu'il faut une certaine sagesse. Mais quand ta conscience est en jeu, tiens plutôt sur le terrain de Dieu et sur les armes de Dieu. C'est elles qui te donneront la victoire. Demeurer sur son terrain où se trouve la bénédiction. Pensez à Élimélech et Naomi, quand ils voient la famine venir, ils quittent Israël et ils quittent Bethléem, la maison du pain. Et ils se retrouvent à Moab, en terre étrangère, et ils se retrouvent vulnérables et faibles. Et si bien qu'ils ont 2 fils, un il s'appelle Maladif et l'autre il s'appelle Languissant. et les deux fils vont mourir et ils vont perdre, et le mari va mourir aussi, et ils vont perdre leur espoir de postérité, mais Dieu a sa solution avec Ruth. Utiliser ses armes plutôt que de se conformer au monde. Mais Daniel a tenu parce qu'il avait fait un choix avant. Vous savez, Daniel avait tenu, il était dans un monde hostile, il avait été déporté, mais il a choisi de tenir sur le peu qu'il pouvait, sur lequel il pouvait exercer son pouvoir. Des fois, tu es dans des situations où tu n'as pas beaucoup de choix. Et ce n'est pas le temps où tu vas crier Jésus, Alléluia, faire l'évangélisation. Mais il y a toujours quelque chose que Dieu te donne. Daniel n'avait plus le temple pour prier. Il n'avait plus sa famille de rang-princier pour le soutenir. Il était orphelin, il était loin de chez lui. Il devait apprendre la sagesse de Babylone, ça veut dire aussi l'astrologie et toutes ces choses. Mais il a tenu sur une chose. Je ne me souillerai pas avec les mets qui avaient été offerts aux idoles. Et parce qu'il a tenu sur le peu, mais le précieux de Dieu, il a vu la réponse de Dieu. Et parfois, tu es dans des situations comme ça. Je ne dis pas que tout est rose, mais regarde quel est le peu de Dieu sur lequel tu peux tenir, le précieux de Dieu. Voilà, dans ce bureau avec ce... Voilà, je ne pouvais pas décider de ce qu'allait faire la Somalie en matière de visa. Ce n'était pas à moi de dire, oh, mais Dieu me dit que la Somalie doit accorder un visa gratuitement à tous les Français. Non, je n'étais pas dans cette situation, mais j'ai tenu sur le peu et le précieux de Dieu. Quand tu tiens sur le peu et le précieux de Dieu, Dieu fait beaucoup et fait des choses extraordinaires. Utiliser ses armes, oui. Et regardez le résultat, et je finis là-dessus. Résultat. Quand nous tenons et nous trouvons les réponses en Dieu, nous amenons la solution de Dieu à ce monde, mais ça va bien au-delà de ce que nous imaginons. Regardez, on va lire les versets de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, le roi le plus puissant de l'époque. Hein. Après cet épisode avec Daniel, Daniel 2, versets 46 à 49. Daniel 2, 46 à 49. Alors le roi Nebuchadnezzar se jeta la face contre terre et se prosterna devant Daniel. Il ordonna de lui offrir des offrandes et des parfums. Puis il déclara, « Il est bien vrai que votre Dieu est le Dieu des dieux. » Le souverain des rois est celui qui révèle les secrets, puisque tu as pu me dévoiler ce secret. Le roi éleva Daniel à une haute position, etc. Mais surtout, oui, voilà, il l'élève à une haute position. Donc il y a une solution pour Daniel, mais il y a surtout un changement dans la perspective du roi. Et on va voir, il y a deux autres moments où il y a ce conflit avec le roi, quand il y a la statue et qui veulent pas se prosterner devant la statue, vous savez, ils sont jetés dans les amis de Daniel sont jetés dans la fournaise. Après la fournaise, oui, qu'est-ce qu'il dit le roi? Daniel 3, 33. Que ses signes extraordinaires sont grands et ses prodiges éclatants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste d'âge en âge. Dans une autre version, c'est beaucoup plus clair. Vous savez, c'est le chant qui dit, son royaume n'a pas détruit et son règne est infini. Vous voyez, on a fait un chant très connu, pas avec les paroles de Paul ou de Jésus, mais avec les paroles de Nebuchadnezzar. Mais d'un Nebuchadnezzar changé par ce qu'il a vu. Et enfin, le plus extraordinaire, Daniel 4, 34, après encore une intervention de Dieu. Daniel 4, 34, c'est le roi qui parle. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, car il agit en accord avec ses paroles. Et tout ce qu'il fait est juste. Il a le pouvoir d'abaisser ceux qui vivent dans l'orgueil. Ça, c'est après être devenu comme un animal. Il a le pouvoir d'abaisser ceux qui vivent dans l'orgueil. Donc, vous voyez la transformation de Nebuchadnezzar. Daniel a amené une solution au roi, là où il n'y avait pas de solution. Quand nous faisons cela dans ce monde, finalement, nous amenons la solution. La solution, c'est Jésus. Nous amenons la solution du salut, mais pas avec de belles paroles ou une avalanche de versets et de prières. Nous amenons la solution dans la situation, avec la sagesse de Dieu. Et je pense que Dieu cherche des hommes et des femmes, des enfants de paix, de réconciliation, les enfants qui savent qu'ils sont les fils du roi. Maggie me dit tout le temps ça, moi je suis fille du roi. À chaque fois que je manque un peu de foi, oh mais moi je suis fille du roi. Hein, à chaque fois qu'elle reçoit un beau cadeau, oui mais c'est parce que je suis fille du roi. Elle a une haute opinion d'elle-même, mais elle a raison, parce qu'elle est vraiment fille du roi. Et quand tu es comme ça, tu vois, tu peux apporter des solutions à ce monde, mais surtout tu peux imprégner ce monde de la solution de Dieu qui est Jésus-Christ en toi, parce que tu utilises ses armes et tu restes sur son terrain. Amen. On va prier. Alléluia. Oui, merci Seigneur. Oui, Seigneur, merci de nous rappeler ce matin que nous sommes fils et filles du roi. Et c'est une grâce. Voilà. En même temps que tu nous rappelles ça, et toute l'autorité, toute la faveur, toute l'onction que cela recoupe, tu nous rappelles aussi que c'est une grâce. Non pas à cause de nous, mais à cause de ce que Jésus a fait à la croix pour nous et de ce qu'il nous a donné gratuitement. Mais Seigneur, qu'est-ce qu'on fait de ce gratuit de Dieu ? Ce gratuit de Dieu est tellement précieux que tu nous appelles à l'utiliser avec discernement, avec sagesse. Seigneur, je prie ce matin pour chacun de tes enfants ici et nos situations que tu connais. Et peut-être nous sommes dans une situation difficile, une situation où on doit faire des choix. Seigneur, je prie que tu nous rappelles que nous sommes fils et filles du roi et que nous avons cette autorité, cette faveur. Et que quand Dieu nous approuve, il dispose favorablement à notre égard, même nos ennemis. Seigneur, je prie cette victoire dans nos vies. Je prie plusieurs victoires comme cela dans nos vies, afin que nous demeurions sur le terrain de Dieu, devant, malgré les vents de la peur, malgré les vents de l'intimidation, malgré les vents de la raison de ce monde, de la sagesse de ce monde. Seigneur, la sagesse de Dieu est plus grande que ce monde. Seigneur, nous voulons le proclamer et puiser dans le trésor de sagesse et de foi qui est en toi. Et je prie spécifiquement pour chaque personne qui est dans une situation difficile, qu'elle va venir peut-être près du roi, près des administrations, près des situations, des décideurs, mais elle va surtout venir près de Dieu, près de toi, près de celui qui a payé le prix une fois pour toutes à la croix, et elle va trouver en toi l'assurance, la solution, la réponse de Dieu dans la situation. Et Seigneur, merci que peut-être c'est pour nos familles, peut-être c'est dans une situation de dispute, de manque de pardon, peut-être c'est sur notre lieu de travail où nous sommes victimes de persécution, d'oppression, de tension. Mais Seigneur, tu as une solution pour chaque situation, pour chacun de tes enfants qui t'écoute, qui ouvre son cœur, comme on l'a dit tout à l'heure, et qui puise en toi les trésors de ta sagesse en tenant ferme sur ton terrain, en payant le coût qui consiste à tenir ferme et à utiliser tes armes. Nous n'avons pas honte de celui qui est en nous, mais parce que nous sommes fiers de celui qui est en nous, nous pouvons triompher de celui qui est dans le monde et qui veut triompher de nous. Seigneur, je prie cela dans nos différentes situations, et je prie que dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, plusieurs voient la victoire de Dieu et ils pourront crier de joie et rendre témoignage de ce que tu auras fait, parce qu'ils ont tenu ferme sur ton terrain et ils ont combattu avec tes armes. Dans le nom de Jésus. Amen.